Le Théâtre La Bordée de Québec a dévoilé sa programmation automne 2020. Michel Nadeau, directeur artistique de La Bordée, est avec nous. Bonjour, Monsieur Nadeau.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là. Pour votre 44e saison, vous avez choisi le thème « Mouvement libre ». Expliquez-nous.
Oui. Ben, mouvement libre au départ, avant que le virus nous joue des tours,
oui.
Cette programmation-là, on allait ailleurs d'où on allait habituellement. Il y avait des nouvelles propositions sur les projets, il y avait des nouveautés, il y avait des primaires, il y avait plein de choses. Tout à coup, l'aborder allait ailleurs, se présenter autrement, et c'était cette idée-là aussi. Puis, il y avait certaines pièces aussi qui parlaient de grands mouvements sociaux, c'est tous ces mouvements qui essaient de changer l'ordre des choses, des comportements, bon, etc.
Mais quand vous dites que l'aborder a décidé d'aller ailleurs, vous alliez où avant d'aller ailleurs?
Ah ben là, je suis pas sûr que je vais vous dire. Je vais vous dévoiler mes punchs qu'on a déplacé la saison prochaine. Mais il y avait des nouvelles façons de présenter les spectacles, des choses qu'on n'avait jamais faites habituellement, qui s'étaient pas faites à Québec non plus. C'est dans ce sens-là. Évidemment, la majorité de ces choses-là ont été reportées l'année prochaine. Mmh. Donc, on fera les annonces à ce moment-là.
On pourrait s'en reparler.
On pourrait s'en reparler, absolument.
Avec Parfait. Plaisir.
Mais quand la pandémie est arrivée, qu'on a dû déplacer plein de choses, reporter, annuler et tout, on a dit est-ce qu'on garde notre thème de saison? J'ai dit oui, gardons-le, c'est pas la même chose qu'on va faire. On n'a pas le même espace de jeu, on n'a pas la même cour de récréation, mais ça ne nous empêche pas, on reste libre pareil, on peut faire autre chose. Et cette contrainte-là nous a obligés justement à utiliser notre liberté autrement et on l'a gardé.
Et puis, au cœur donc de cette proposition automnale, il y a des lectures de pièces, il y a des représentations de pièces de théâtre. Ça commence le 19 septembre avec 4 lectures tous les samedis jusqu'au 10 octobre. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns de ces textes et quelques-uns de ces lecteurs et lectrices?
Oui. Ce qu'on voulait faire, tout d'abord, je voulais que ce sur quoi on travaillait, c'est au début quand on ne savait pas trop dans quelle direction on pourrait aller, ce serait quoi notre marge de manœuvre. Mais l'affaire qui me guidait, c'est que je voulais qu'on emploie le plus de comédiens, de concepteurs, de techniciens possibles, parce que c'était très dur pour les artisans de ce milieu-là, qu'on présente le plus de choses possibles à notre public. Et c'est pour ça que quand on a vu qu'on déplaçait qu'on annulait le premier spectacle, on a dit, dans l'espace qui était réservé, dans ce mois-là où on devait jouer, on va faire 4 lectures. Et on a fait un petit sondage auprès de nos abonnés, notre public régulier, en disant, alors, dites-nous, c'est quoi des bons souvenirs que vous gardez des spectacles de l'aborder? Il y a certaines pièces qui sont sorties plus que d'autres, dont La robe de Gulnara d'Isabelle Hubert et Les Muses orphelines de Michel-Marc Bouchard, qui sont sorties. C'est des pièces qui avaient été jouées il y a 10 ans et 15 ans. On s'est dit, tiens, ça va être une occasion pour les gens de réentendre ces textes-là parce qu'ils avaient vraiment été beaucoup aimés, de signifier un peu ce genre d'anniversaire là, après 10 ans et 15 ans. Et ce qui fait qu'on a décidé de présenter ces deux premiers textes-là. Et les deux autres, c'est des textes qui n'ont pas été joués ici. C'est des textes qui ne sont pas en projet non plus pour les prochaines saisons, pour un paquet de raisons, mais que j'aime bien, que j'ai décidé de présenter aussi. Donc, c'est la controverse de Valladolid, d'auteur français Jean-Paul de Carrière, et La Corneille de l'auteur québécoise Élise Vaillancourt.
Et pour chacune des pièces lues, est-ce qu'il y aura plusieurs lecteurs ou un seul lecteur ou une seule lectrice?
Plusieurs lecteurs. Avec évidemment, ce qui facilite le avec une lecture en général, ce qu'on fait, c'est que les comédiens en répètent un peu, une quinzaine d'heures, assez pour se mettre le texte en bouche et tout, et ça se fait devant lutrin. Donc, on va évidemment espacer les lutrins à 2 mètres de distance, comme ça, on va tout à fait respecter la norme de distanciation. Et donc, c'est des textes aussi qui sont pas très... Il y en a un qui a 7 comédiens, mais ça se promène entre 3 et 7 comédiens, ce que on a fait notre mise en place de tout ça pour que les acteurs soient évidemment ils respectent les normes de la santé publique.
Mm-hmm. Ça serait peut-être trop long de les nommer, mais est-ce que vous avez quelques noms à nous mentionner?
Il y a les metteurs en lecture, donc il y a Jean-Sébastien Ouellet qui va faire la première mise en lecture de La robe de Gulnara. Il y aura Marie-Josée Bastien, qui est comédienne metteur en scène, qui est assez connue ici à Québec et aussi à Montréal, qui a fait des trucs aussi, qui a fait des mises en scène. Je suis dans plusieurs théâtres. Il y a aussi dans Les Muses orphelines, ça va être une distribution. la metteur en lecture, c'est Amélie Bergeron, qui a fait Une bête sur la lune chez nous il y a 2 ans. Une très, très belle pièce qui avait connu beaucoup de succès avec des jeunes comédiens, Ariel Charest, Pierre-Olivier Grondin, Léla Case. Bon, après ça, on tombe dans La controverse de Valladolid. Ça, c'est une pièce extrêmement intéressante. La controverse, c'est... Valladolid, c'est une ville en Espagne et c'est un procès qu'il y a eu à l'intérieur de l'Église catholique en 1550. Et 1505, le 16e siècle, c'est le siècle beaucoup où les Européens ont envahi le Nouveau Monde. Bon, les Français au nord, mais les Espagnols au sud. Et les Espagnols traitaient les Indiens du Nouveau Monde, les Autochtones, là-bas, les Mayas, les Aztèques et tout, vraiment comme du bétail, à tel point qu'à un moment donné, les missionnaires qui étaient là-bas disaient, mais peut-être qu'on n'a pas le droit, face à Dieu, de traiter ces gens-là. Puis la question qui se posait, c'est est-ce que ce sont des humains comme nous, les Européens?
Oui, oui, oui.
Et il y a eu un grand procès à l'intérieur de l'Église catholique et la pièce rend compte de ce procès-là et des diverses positions. Et à la fin, le pape de l'époque, Jules II, je crois, a pris une décision qui a eu une influence sur tous les peuples autochtones de la Terre pour les années à venir. Donc, c'est pas très connu, c'est assez pointu, mais la pièce est très, très bonne. Donc, c'est une pièce, c'est un procès qui est mis en scène par, qui est mis en lecture par Olivier Lépine.
Une pièce et qui suscite beaucoup de réactions et d'émotions. Et oui. Parmi une autre pièce, cette fois-ci, qui sera mise en scène, donc on va pouvoir voir les acteurs sur une scène jouer. C'est vous qui l'a signé, cette mise en scène.
Oui.
Le gars de Québec de Michel Tremblay, une adaptation d'une œuvre de Gogol, le Révisor. Quel est le propos de la pièce aussi, là? Ça va provoquer des réactions, là.
Oui, alors c'est une satire politique qui avait été créée chez la compagnie Jean Duceppe. Michel Tremblay avait adapté ça à la demande de M. Duceppe. En fait, c'est une satire politique de la corruption, en fait, du mélange de l'argent et du pouvoir. Et ça, donc, c'est éternel.
Ouais.
Depuis que du pouvoir et de l'argent, il y a de la corruption. Et ça se passe, Tremblay a situé ça en 1952 dans un petit village imaginaire de Charlevoix. Donc, à l'époque de Duplessis, où tout le Québec est bleu, et il y a un petit village, le village de notre Sainte-Rose de Lima, qui est rouge, qui est libéral. Et le maire, donc, mène son village d'une main de fer, et c'est l'occasion de voir toutes les tractations avec les amis du pouvoir, l'argent, les pots de vin, les enveloppes brunes, le détournement de fonds, etc.
Mais pensez-vous que le public a envie d'entendre ce genre d'histoire, parce qu'on est un petit peu... Je sais pas, amer par rapport à tout ce qui s'est passé en politique et tout ce qui doit se passer encore aujourd'hui.
Des fois, c'est bien de rire pour déboulonner certaines statues. Je parle pas de celle de John A. McDonald, mais c'est une satire, donc c'est très drôle, c'est très bien fait, c'est très comique, les personnages sont très colorés.
Okay.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça parle aussi de l'esprit de les gens qui sont colonisés, en fait, parce que le gars de Québec qui arrive, c'est un fonctionnaire, et tous les gens pensent que c'est un inspecteur du gouvernement qui vient pour mettre son nez dans les finances publiques. Et finalement, on se rend compte qu'ils sont trompés de gars. C'est pas du tout ça. C'est un pauvre petit fonctionnaire qui était mis à la porte de chez eux, qui s'en va chez ses parents à Baie-Saint-Paul. Erreur sur la personne. Et lui, il se ramasse avec plein de gens qui viennent le voir, qui lui donnent des pots de vin. Et finalement, il dit, ah, mais c'est très agréable. C'est très agréable de recevoir autant d'argent en faisant rien. Il comprend qu'est-ce qui se passe. Et finalement, il devient aussi corrompu que les autres, finalement. Donc,
et est-ce que ça a été un défi de mise en scène? Parce que, étant donné la COVID-19 qui est toujours là, même au théâtre, évidemment.
Oui, c'est une grosse distribution. C'est 11 comédiens. Bon, ils ne sont pas tous les 11 sur scène tout le temps. C'est des scènes à 2, 3, 4, 5. Mais oui, j'ai dû changer tout mon projet de mise en scène pour tenir compte, finalement, pour que les acteurs soient toujours à 2 mètres de distance. Fait que quand ça s'est arrivé, la question qu'on se posait, c'est qu'on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut monter cette pièce-là avec ces contraintes-là? La pièce, ça se pouvait parce qu'il n'y a pas de grande scène d'amour, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de... les gens peuvent être distancés les uns des autres.
Combien de personnages?
Il y a 12 personnes, 11 acteurs, 12 personnages. Fait que j'ai sorti mon... Alors, avec mon équipe, on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut mettre 11 comédiens dans les loges? Si oui, comment est-ce qu'on organise ça? Comment on organise le trafic? Dans les coulisses, comment on organise les coulisses? Sur scène, alors j'étais avec ma scénographe, suis dit, bon, fais-moi une proposition de décor qui va me donner le plus d'espace possible. Puis on a sorti le galon à mesurer. On a dit, OK, s'ils sont assis, là, ils peuvent faire ça, ils peuvent se déplacer comme ça. Et quand on a vu que tout ça se pouvait sur papier, ben, on a dit, OK, go, allons-y. On appelle tout le monde. Puis on leur dit que le spectacle n'est pas reporté dans un an ou deux ans. Alors, évidemment, tout le monde était très content parce qu'il pensait qu'on annulerait.
Alors, la pièce va être présentée du 27 octobre au 21 novembre. Oui. Il y aura une captation numérique aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui n'ont pas la chance de se rendre au théâtre L'Abordé.
Oui, parce qu'on doit réduire notre jauge. On a une salle de 350 places, mais là, à cause des règles, on tombe à 142 places. Ouais. Et il y a aussi des gens qui nous ont dit, on va attendre un vaccin, on va attendre un médicament, on n'ira pas, on aimerait bien, mais on n'ira pas. Fait qu'on offre ça, donc c'est une possibilité pour ces gens-là de pouvoir voir quand même le spectacle. Ça permet aussi à tous ceux qui ont des contraintes de mobilité physique, ceux aussi qui quelquefois, parce qu'ils ont des jeunes familles, ils ont des tout jeunes enfants aux courses.
Alors comment on va pouvoir voir cette pièce?
Très simple. En fait, on va faire comme d'habitude quand on veut acheter un billet. On va soit sur le site de l'Abordé ou sur le site de Ticket Access, qui est notre fournisseur de billetterie. Et là, on va avoir le choix entre deux salles, la salle réelle, la salle virtuelle. Et là, on va cliquer et on va acheter notre billet. Et il y aura donc un code qui nous permettra de regarder le spectacle ce soir-là précis, entre telle heure et telle heure, genre entre 18h et minuit, quelque chose comme ça. On tenait, nous autres aussi, à ce que même si c'était virtuel, garder le rituel du théâtre, c'est-à-dire que c'est le mardi soir ou ce jeudi soir-là qu'on s'assoit et qu'on regarde le spectacle, et donc pas une écoute à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, comme les fournisseurs Netflix, etc., mais de garder cet esprit que même si on est chez nous, on sait que dans la salle, à l'Abordé ce soir-là, il y a 150 personnes d'assises, 140, et dans différents foyers, il y a quelques centaines de personnes qui vont regarder la pièce ce soir-là. Donc, c'est l'idée de communauté encore qu'on a voulu préserver, même en mode virtuel.
Oui, c'est important de respecter le rituel. Ouais. Michel Nadeau, j'aurais encore plein de questions. Le projet Foule, une murale extraordinaire sur votre théâtre. Oui. Il y a des auteurs en résidence d'écriture. Vous allez accueillir des compagnies de théâtre de Montréal. Mais si on veut tout savoir, j'imagine que votre site Internet nous en dit pas mal.
Tout est sur le site.
Alors, donnez-nous l'adresse en terminant, s'il vous plaît.
Labordé.qc.ca.
Tout simplement. Directeur artistique, c'est ce que vous êtes, directeur artistique du Théâtre de l'Abordé, entre autres choses, metteur en scène également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir transmis votre passion. Et puis, bonne saison.
Très bien. Merci. Au revoir.